Merci François. Et c'est vrai que sur la dernière partie d'intervention, ce que tu disais, ça a beaucoup de résonance au CMEA, hein, puisque dans les mouvements d'éducation nouvelle, on travaille sur l'auto-évaluation, la co-évaluation, construire des critères ensemble. Donc ce sont des choses qui nous tiennent à cœur aussi. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un premier tour de questions dans la salle et qu'on entame comme ça un temps d'échange avec vous. Je sais que tout le monde est frigorifié. Mais vous pouvez poser des questions en parlant en anglais, hein, puisqu'il y a la traduction.
Massimiliano, Italian, I'm from CESV, one of the Italian partners of Voice Project. Just the first question, like an ice breaking.
Donc, je vais me lancer pour poser la première question, qui est toujours la plus difficile. Je me demandais, en ce qui concerne la valorisation des compétences, est-ce que cela inclut également la phase de certification? En fait, c'est une question pour vous deux. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques de coopération entre les ONG et un réseau d'ONG comme le vôtre et les systèmes ou les dispositifs d'éducation formelle, officielle, pour pouvoir peut-être donner des certificats ou des diplômes formels à un volontaire une fois qu'il a fait son volontariat. Et après, évidemment, le processus d'évaluation.
Merci. Alors, oui, il y a des travaux, des liens qui existent. Ça reste très compliqué, mais il y a des liens qui existent. Déjà, nous, on travaille beaucoup avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Agriculture, parce que là, pour le coup, au niveau de la valorisation et la certification, dans le cadre de l'enseignement agricole en France, il y a un lien qui est, pour le coup, là, ça marche très bien. Donc, du coup, il y a tout un travail d'inspiration à ce niveau-là pour travailler mieux avec le ministère de l'Éducation nationale, mais ça reste compliqué. Mais il y a quand même je pense au dispositif de VAE, valorisation des acquis de l'expérience, validation pardon des acquis de l'expérience, voilà, qui dont l'objectif est vraiment de travailler à sur la base de ce qui a été fait. Je pense notamment, nous on travaille avec un institut qui s'appelle l'Institut Bioforce. Qui est aussi dans la région lyonnaise, où il y a tout un travail de capitalisation où les anciens volontaires, par exemple, rédigent ce qu'ils ont fait, plutôt que de dire voilà, les processus, les manières de faire devraient être celles-ci. Ils vont vraiment être sur moi, pendant mon expérience de volontariat, j'ai fait telle chose, en termes de management, en termes de gestion de projet. J'ai fait toutes ces choses-là, donc je suis en mesure de les raconter, de les poser, de les formaliser. Et ensuite, il y a tout un travail de jury, d'étude du dossier, qui derrière permet de donner une équivalence de diplôme sur des choses. Là, je pense notamment des sujets très humanitaires, de diplômes de logisticien, mais aussi des diplômes de responsable de projet. Donc voilà, c'est un processus qui est long, mais c'est un processus qui est intéressant. Aussi en termes d'apprentissage, pour bien poser son expérience. Mais il y a de fait un lien plus fin à poser avec le ministère de l'Éducation nationale.
C'était en complément sur la validation des acquis de l'expérience. Tous les États doivent mettre en place un registre national des qualifications et un registre national des métiers. C'était le European Qualification Framework. Et en France, on l'a depuis 2004, ce qui fait qu'il est possible, à travers cette démarche de validation des acquis, de pouvoir valoriser et certifier des apprentissages et des compétences qu'on a acquis dans plein de milieux différents. La limite qu'on voit, nous, au CMEA, c'est que le cadre de référence, c'est toujours le cadre formel des métiers et du référentiel de qualification. Donc ça a l'avantage que ce soit transparent et que ce soit formalisé. Ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays.
Sur la question que j'évoquais au niveau historique pour les CMEA, des centres de vacances et des centres de loisirs, depuis très longtemps, il a été créé avec l'État et en relation donc avec le ministère de l'Éducation nationale à l'époque et du ministère de la Jeunesse et des Sports, un diplôme qui est un diplôme d'éducation non formelle pour des volontaires et qui n'est pas un diplôme professionnel et qui définissait les compétences et permettait aux jeunes animateurs d'acquérir un certain nombre de compétences, de savoir-faire à travers cette activité-là qui était le diplôme de moniteur de colonie de vacances et qui est devenu ensuite, à partir de 1971, le BAFA. Et ce BAFA, d'ailleurs, s'est développé pas seulement en France, mais on a eu des partenariats, mais Isabelle est plus compétente que moi là, pour en parler, avec en particulier en Allemagne, sur le BAFA Julaika, où en fait on pouvait donner, après la formation acquise, en fait une double certification volontaire. Le problème qui se passe aujourd'hui et puis depuis un certain temps sur cette question du BAFA, c'est que en fait, alors que c'est un diplôme, une formation qui a été construite pour des volontaires, dans un cadre spécifique, qui est un travail de groupe, qui est un travail dans une équipe d'animation, avec des niveaux de compétences différents dans cette équipe d'animation, ce BAFA-là est utilisé aujourd'hui, en fait, pour professionnaliser entre guillemets, un certain nombre d'animateurs. On le voit bien, on l'a bien vu en France très, très récemment, dans la complémentarité éducative, comme on dit, dans la création des activités périscolaires par le ministère de l'Éducation nationale, où en fait des jeunes ont été salariés sur ces activités-là, alors qu'il existe parallèlement à ça des diplômes professionnels de la branche jeunesse et sport qui auraient dû être utilisés. Sauf que les employeurs ont utilisé le BAFA. Comme je le disais tout à l'heure, ça décrédibilise le BAFA en tant que tel parce que les employeurs disent mais ils ne sont pas assez formés, alors qu'ils n'ont pas été formés pour ça. Et par contre, les diplômes professionnels, eux, qui auraient dû être utilisés, auraient bénéficié beaucoup plus aux jeunes salariés que le BAFA.
Je parle en français. Et moi, je suis Claudio Tosi. Même moi, je travaille au CESV, mais je suis même un formateur CMEA en Italie. Donc, j'ai un double accès à cette discussion, une double casquette. Et justement, ce que je pense, c'est qu'il y a tout une question à résoudre sur cette validation des compétences et les rapports qu'on a avec le monde de la professionnalisation. Puisque maintenant ils sont en train de faire un volontariat marchand. Même en Italie, les services civils, qui c'est cette expérience importante, puisque ça dure 12 mois, donc c'est costaud, c'est quand même une expérience très, très à valoriser. Les gens, ils découvrent soi-même, ils découvrent des autres parties de la société qu'ils ne connaissaient pas. Donc c'est très intéressant que ça existe, mais c'est souvent utilisé pour couper l'écoute des personnes dans les organisations, ça, nous sommes contre ça. Mais je pense que le jeu, joueur, ça nous donne une idée de ce qu'on va défendre sur le volontariat. Quand je joue, j'apprends beaucoup de choses, mais je suis en train de jouer. Ce n'est pas que je joue pour apprendre les choses. Et donc ça, c'est la même chose pour le volontariat. J'ai fait du volontariat. Bien, j'apprends beaucoup de choses. Ça sont valorisables pour la professionnalisation. Mais je ne fais pas le volontariat pour apprendre ces choses-là. Et ça, il faut les défendre, être clair sur ça. Puisque, par exemple, tout ce qui est en train de... Ce qui arrive avec les BAFA, c'est que on bloque, en professionnalisant les BAFA, on bloque toute une situation de citoyenneté qui nourrissent des générations de jeunes. Et par contre, si on l'arrête là, on n'a plus la place pour accueillir des autres jeunes dans cette croissance citoyenne. Et donc, j'aimerais bien qu'on fait ressortir cette idée que on est contre un volontariat qui devient un boulot pas reconnaissé. Et que par contre, le boulot, c'est le monde du boulot qui devrait voir que l'aveugle n'est pas le volontariat, c'est le monde bleu dans cette histoire-là.
Merci. D'autres prises de parole ?
Je parlais tout à l'heure avec Claire Valentin, la coprésidente des SEMA du Centre, de la VAE, de l'intérêt de la VAE, mais en même temps, aujourd'hui, des limites, en fait, surtout à travers un certain nombre de décisions récentes qui sont prises ou qui vont se prendre, mais qui risquent de porter préjudice, en fait, à la VAE elle-même. Mais peut-être que Claire en parlera mieux que moi.
Oui, tout à l'heure, on évoquait le fait que, par exemple, en tout cas en France, là, sur le dispositif VAE, il est maintenant nécessaire de n'avoir qu'une année d'expérience pour pouvoir prétendre à présenter un diplôme dans le cadre de la VAE. Avant, c'était 5 ans ou un certain nombre d'heures. Ce qui fait que là, du coup, ça a des conséquences. Enfin, on ne les voit pas tout de suite parce que c'est tout récent. Mais ça va avoir des conséquences nécessairement sur ce que les professionnels déjà diplômés vont pouvoir penser des gens qui obtiennent un diplôme par la validation de l'expérience en ne faisant acte que d'un an d'expérience dans le métier concerné. Donc voilà, c'était un point. Et puis moi, du coup, ce que tu disais, ça me faisait aussi penser. Est-ce que aussi, si le volontariat devenait un moyen d'obtenir des compétences pour une voie d'obtenir un diplôme, est-ce que ça ne va pas aussi peut-être bloquer le volontaire dans ses envies d'expérimenter, d'essayer, parce que derrière, il a en tête l'idée que ah oui, mais c'est pour avoir un diplôme et c'est pas juste pour essayer, expérimenter, et on perd tout l'aspect expérientiel dont j'ai pu parler tout à l'heure.
Merci. Dans ce que vous disiez, est-ce qu'on est en train d'échanger sur la valorisation ? Il y a l'idée de comment on peut valoriser ou qualifier cette expérience. Alors dans le jargon européen, c'est d'éducation non formelle. Comment on arrive à formaliser des choses sur cette expérience non formelle sans réduire cette expérience ? Et il y a le risque de le réduire à un référentiel de qualification ou un référentiel de compétences. Cette expérience, elle n'est pas que individuelle, mais il y a aussi la dimension collective, et qu'il n'y a pas que la dimension d'employabilité, mais il y a toute cette dimension de citoyenneté. Donc c'est un peu les trois niveaux que je voyais. Moi, j'avais aussi envie de vous questionner sur, dans l'analyse que vous faites, d'où vient cette nécessité de valoriser ? Parce qu'il me semble, en tout cas dans la culture de l'éducation populaire, il y a un moment donné, être volontaire, ça allait de soi que ça avait une utilité sociale. Donc pourquoi aujourd'hui on doit prouver que c'est utile ? Et après, tout à l'heure, vous avez tous les deux parlé de changement ou d'impact. Et est-ce qu'on pourrait échanger ensemble aussi sur cette notion, qu'est-ce qu'on met derrière, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on en attend ? Et évidemment, dans le public, vous êtes aussi contributif par rapport à ces questions-là.
Sur la première partie de la question, je ne suis pas un spécialiste hein, de tout ça, mais enfin, moi j'ai une vision un peu globale et générale quand même. Enfin, depuis 30 ans, on est dans une évolution des sociétés vers plus de libéralisme, plus d'individualisation des démarches et des processus. Et en même temps, en plus, cette évolution de la société a créé des inégalités sociales, des inégalités professionnelles, un chômage de masse qui forcément impacte et questionne l'ensemble des acteurs. Hein, et donc qui cherche à rentabiliser entre guillemets, hein, parce que c'est la mode, parce que c'est la philosophie du morceau de siècle qu'on est en train de vivre. Donc comme il faut rentabiliser, eh ben, il faut trouver des outils de rentabilisation, de mesure, parce que le capitalisme néolibéral d'aujourd'hui veut mesurer tout, évaluer tout, hein, et donc bah, il cherche les moyens de le faire. Et ces moyens de le faire, c'est des valorisations tout azimut. Alors, en même temps, quand on dit ça, ouais, c'est un vieux con... Il vit dans une autre société, et tout ça, mais je pense que c'est pas vrai. Je pense que c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Mais il ne faut pas en rester, je pense, à cette dimension seulement critique de la période qu'on vit. Parce que dans valorisation, il y a des choses très, très intéressantes. Hein, et moi, j'ai tendance à dire qu'à un certain nombre de moments, enfin, le libéralisme nous capture un certain nombre de mots que l'éducation populaire n'aurait plus le droit d'utiliser parce qu'il s'est très connoté idéologiquement. Et bon, il faut résister à ça, mais en même temps, il faut dénoncer. En même temps, il faut dire qu'on se revendique, nous aussi, d'un certain nombre de contenus dans des mots, mais ce n'est pas les mêmes contenus.
Pour aller dans ce sens-là, je pense que la question de l'utilité sociale, à la fois, ce que tu disais est assez juste. De fait, on se questionne sur la nécessité de prouver l'utilité sociale d'un volontariat. Moi, ce que je vois, c'est que il y a, alors de fait, il y a ce cadre-là qu'on nous demande de poser la valeur pour que, typiquement sur les dispositifs de volontariat, de solidarité internationale ou autre, ça va être, en gros, justifiez-nous la valeur que ça a pour que ça continue et que les financements continuent derrière. Donc, ça va beaucoup se poser comme ça. Donc, on se retrouve évidemment à se dire, justifions pour que aller dans ce sens-là. Et après, c'est aussi, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a, donc, il y a évidemment cette première, on va dire, obligation, mais derrière, il y a aussi quand même, au niveau de France Volontaire et de ses membres, il y a des volontaires de profils hyper, hyper variés, hyper divers. Et donc, ils vont tous, pour beaucoup, ils vont nous dire, c'est très compliqué quand je rentre de valoriser mon expérience, mais pas seulement dans un parcours professionnel, ne serait-ce que de bien en parler, de bien dire à, ce que je disais tout à l'heure, à mes proches, ce que j'ai vécu, parce qu'eux, ils sont à des années-lumière, ils ne l'ont pas vécu, et ils vont me poser des questions, presque, ils vont me dire c'était bien, et après un an de volontariat, on ne peut pas répondre à c'était bien, c'est beaucoup plus complexe. Donc, finalement, je pense qu'il y a aussi une demande qui vient des volontaires d'accompagner sur des démarches de capitalisation, de relecture de l'expérience, d'accompagnement dans des démarches éducatives derrière, de voilà, de bien témoigner, de bien en parler, et ne serait-ce que de soi à soi-même, être en mesure de dire, bon, bah, moi, ce que j'observe de changement pour moi, c'est ça. Donc, je pense que, de par ce contexte qui est globalement regrettable, je suis tout à fait d'accord, il y a aussi cette dynamique derrière sur laquelle qu'on peut utiliser, qui est assez intéressante et qui va bénéficier directement aux personnes et plus globalement aux sociétés.
Mais moi, je te rejoins complètement. Moi, je pense que valeur, c'est un super mot, c'est un beau mot. Sauf qu'il ne faut pas qu'on se le fasse confisquer. Et pour ne pas se le faire confisquer, ben, il faut donner des alternatives à ce qu'on nous offre comme seule possibilité de valorisation. Et je pense que le travail qui est fait là, quand on lit les textes, quand on entend ce que tu dis sur les documents que vous travaillez, quand on lit le document du projet, là, on voit bien à l'intérieur que c'est... On est bien sur ce débat-là, quoi. Comment avoir une autre vision, une autre conception, une autre idée de la valeur.
Dans ce que vous dites, j'entends aussi l'idée de conscientisation, à la fois pour les volontaires, pour se rendre compte de ce qu'ils ont appris et du changement que ça apporte, mais aussi pour les organisations qui accompagnent ce volontariat, qu'elles arrivent à objectiver une démarche d'accompagnement pour pouvoir pédagogiquement avoir un accompagnement de qualité, mais aussi pour pouvoir avoir une idée du changement qu'elles apportent.
Bonjour, Françoise Doré. D'un réseau assez impliqué dans le volontariat depuis de nombreuses années en France, mais aussi dans d'autres pays. Moi, je nous invite à réfléchir aux mots qu'on utilise. Et c'est intéressant, là, cette partie, parce que je crois qu'on a à l'écran valorisation. Et c'est vrai que parfois, on passe de la valorisation à validation, certification, justification, et qu'il faut être conscient des mots qu'on utilise, mais aussi des finalités pour lesquelles on veut mettre tout ça en réflexion, enfin en branle. Je dis pas le mot branle parce que je ne sais pas comment on le traduit. En marche. Excusez-moi, dans mon français. Et du coup, c'est vrai, enfin, je repense que dans notre réseau où avant le service volontaire européen, avant des volontariats qui aujourd'hui sont institutionnalisés, on a plaidé pour faire reconnaître ce que tu dis, François, que derrière le « je » j'ai vécu, je mets des mots qui montrent aussi que j'ai eu une belle expérience, que je ne suis pas partie juste pour aller me balader dans un autre pays, ou que je ne suis pas allée m'amuser, mais j'ai appris des choses. Et on a le piège qu'en voulant démontrer qu'on a appris des choses, qu'on a développé des savoir-être, des compétences qu'on n'attendait pas, finalement on revient et on veut prouver que ça vaut peut-être un an, deux ans d'études un stage professionnel. Et les risques, ils sont là, les pièges, ils sont là, parce qu'on veut faire reconnaître la valeur des choses, puis en même temps, on tombe parce que les institutions nous ont donné un cadre européen, un cadre comme le service civique en France ou le service civil en Italie. Il y a aussi d'autres expériences dans d'autres pays européens. Que mettons derrière ces expériences-là et où est le piège d'en faire quelque chose qui détourne finalement de l'objet initial, de faire que les gens se déplacent dans la tête, pas seulement géographiquement, et que ces expériences-là soient des belles expériences qui vont faire grandir ou changer notre vision du monde. Et finalement, on les tord et on en fait une espèce de référentiel avec des cases à cocher. Et puis ça y est, on a pris ça. Et comment après dire, ah oui, mais nous, on veut pas l'employabilité, on veut rester dans nos belles aventures. Voilà, je pense que... Et du coup, les mots qu'on utilise sont importants. Et ne serait-ce que parce qu'ils clarifient qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif.
Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, parce que c'est aussi un débat qu'on a eu au sein du projet. C'est que dans la situation économique dans laquelle se trouvent beaucoup de pays et beaucoup de jeunes, réfléchir à son employabilité et chercher des solutions à son employabilité, bien sûr qu'on ne peut pas reprocher aux jeunes de le faire. Et enfin, il me semble que ce qu'on dit là, ce n'est pas antinomique avec des objectifs aussi personnels d'employabilité des jeunes. Enfin, il me semble aussi.
Alors, peut-être je donne la parole à... bonjour. Alors, moi, c'est Marion Hunou. Je suis chargée de mission pour Concordia. Oui, pardon. Je commence tout juste dans la vie active. Et donc, toute cette question-là, je me les pose beaucoup. J'ai parlé en mon nom et pas en nom de Concordia. Je suis passée par une expérience de volontariat en service civique. Et cette question de l'après-volontariat s'est évidemment posée, c'est une expérience qui est très valorisante, mais qui est malheureusement encore peu reconnue, notamment dans le secteur privé, pas forcément associatif, parce que ça commence à changer beaucoup, mais il y a encore beaucoup de choses à changer de ce côté-là. Cette expérience-là, je l'ai faite parce que j'avais envie de m'engager, j'avais envie d'expérimenter ce dispositif-là, et pas du tout dans une logique de me dire... Il faut que ce soit quelque chose qui me permette à tout prix de rentrer dans le marché de l'emploi, en fait. Parce que j'ai eu beaucoup d'échos, j'en ai parlé avec beaucoup d'autres volontaires qui, malheureusement, se sont retrouvés dans des expériences de volontariat par défaut, parce que ne trouvant pas ni emploi, dans leur domaine. Et finalement, ça s'est révélé être une expérience formidable pour eux. Et pour elles, parce qu'ils ont vécu d'autres choses, et même si ça ne leur a pas forcément permis de trouver un emploi, ça leur a apporté des compétences qui sont tout à fait transversales et transférables dans un métier, ce que moi je trouve, que j'essaie de valoriser aussi à mon niveau, à mon échelle, que j'essaie de transmettre aussi auprès de mes proches qui ne sont pas du tout dans ce domaine-là, et c'est parfois très difficile de leur faire comprendre que ça peut être valorisant et valorisable. Pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, moi je trouve que l'expérience, enfin l'engagement, quel qu'il soit, la forme qu'il peut prendre, que ce soit du volontariat ou du bénévolat, ça peut tout à fait s'inscrire dans un parcours de vie et c'est pas du tout incompatible avec de l'insertion professionnelle. Au contraire, enfin moi je pense que ça rentre dans un parcours et c'est pas forcément quelque chose auquel on pense tout de suite. Moi je suis passée par diverses formations avant de passer par cette expérience-là et finalement, ça ouvre d'autres possibilités, d'autres fenêtres. Et c'est très intéressant pour ça. Et ce qui m'a permis notamment de rencontrer Concordia, de m'inspirer d'autres expériences aussi et de capitaliser un certain nombre d'expériences autres, d'échanges, de bonnes pratiques aussi avec d'autres volontaires, parce que c'est toujours très enrichissant de voir ce qui se fait ailleurs. Pour moi, c'est vraiment une richesse et j'essaie au quotidien de le partager.
Alors, dans ce que tu dis, Marion, il y a aussi une dimension sur laquelle on a échangé cette semaine. C'est la question du réseau et de la mise en réseau. Et c'est bien souvent aussi ce qui manque quand on cherche du travail. Et comment aussi le volontariat, dans sa dimension d'inclusion sociale, nous met dans un réseau et nous fait connaître des personnes qui sont aussi un levier pour construire sa vie personnelle, mais aussi par la suite pour construire sa vie professionnelle.
Oui, moi je reviendrai sur... on parle beaucoup des volontaires en fait, et ce que je trouve, ce qui est pour moi l'enjeu, c'est plus la question de la formation de la société entière. En fait, parce que pour moi, le bénévolat, c'est pas que les jeunes. C'est aussi, moi, je travaille spécifiquement sur le service civique, mais j'ai aussi fait un VSI et deux Erasmus. Bon, bref. Et le but, c'est aussi, par exemple, dans le volontariat de service civique, si les tuteurs, ils arrivent avec l'idée qu'il y a un jeune qui arrive dans leur structure, Et en gros, ils vont plaquer leur métier sur ce jeune. Ils vont en faire eux-mêmes un dispositif aussi d'insertion. Le jeune, il a pas forcément trop le choix. Donc, à mon avis, vraiment, voilà, l'enjeu, c'est de former les tuteurs, que ça soit vraiment des dispositifs qui soient connus par le plus grand nombre de gens et qui soient défendus pour ce qu'il est. C'est-à-dire à un moment où on se dit qu'on veut une société plus solidaire et que tous, on participe à se dire, ben moi, donner du temps, donner de mon temps, c'est normal et c'est même une nécessité. Alors, je vais faire une petite anecdote. Donc, moi, j'ai fait un volontariat de solidarité internationale au Mali. Et donc, dans certaines ethnies, une fois par an, ils repeignent les maisons, parce que c'est des maisons en... Pardon. Donc, dans certaines ethnies, en fait, une fois par an, dans certains lieux au Mali, ils repeignent les maisons. Enfin, en fait, ils remettent de la boue sur leurs maisons, parce que leurs maisons, suite à la saison des pluies, elles sont quasiment dévastées. Et c'est quelque chose de normal. Tout le monde considère qu'on va refaire les maisons de tout le monde. Moi, je trouve que c'est un peu ça, cette idée. Il me semble qu'à un moment, il faut qu'on soit tous conscients qu'il faut donner du temps pour l'autre. Voilà, alors que ça s'appelle du volontariat ou du bénévolat. Mais voilà. Donc, je voulais dire ça aussi. Donc, moi, je fais du contrôle de service civique. C'est mon job avec d'autres gens. Nous, ce qu'on constate quand même, c'est qu'il nous semble que ça bouge un peu dans cette société. C'est-à-dire que les tuteurs, il y en a de plus en plus qui, du fait que par l'accueil d'un jeune dans une structure, l'équipe se fédère autour de ce jeune. Et ça fait bouger un petit peu les relations professionnelles et donc les relations sociales. Donc voilà, donc, j'espère que c'est juste une amorce, mais que ça va s'amplifier. Oui, alors je représente aujourd'hui 9 personnes. Donc je suis de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Et donc, au niveau de la région, il y a 3 personnes qui travaillent sur service civique. Et après, il y a une personne en département. Donc, ça fait 6 personnes pour le département, plus 3 au niveau régional. Et ces personnes-là, elles travaillent sur service civique, mais aussi sur le SVE, aussi sur la réserve civique et aussi sur le compte d'engagement citoyen. Merci.
My name is Parker, and Parker, I'm from the U.S., and it's probably easier probablement if I ask the question in English. It sounds better.
Je ne peux pas m'empêcher de comparer le paysage du volontariat et d'éducation alternative en Europe avec mes expériences aux États-Unis. À mon avis, aux États-Unis, on fait face à une question tout à fait différente. Je vais répéter la question. Comment valider les services, comment valoriser les services, comment convaincre les jeunes ou d'autres que c'est une expérience importante. Est-il possible ou utile d'avoir des certifications pour ce type de volontariat? À mon avis, aux États-Unis, nous avons une tradition plus forte, une culture plus forte. On suppose, on s'attend à ce que les services de volontariat sont une nécessité pour le développement personnel, par exemple. Il est presque impossible d'être accepté à une université prestige sans avoir eu une expérience dans le domaine du volontariat. La question n'est pas la valorisation de l'expérience. Déjà, on apprécie ce type d'expérience sur le plan professionnel, dans un CV et en termes de développement personnel. Étant donné que nous avons cette tradition culturelle aux États-Unis, nous avons déplacé la question vers autre chose. La question pour nous est comment réaliser ce type de travail? Je suis curieux comment est-ce qu'on aborde cette question en Europe. Quand je dis comment faire ce travail, je fais allusion à l'aspect à justice sociale et la durabilité des projets. Et le côté éthique, la dimension éthique des projets. Par exemple, une manière pour mon université en Caroline du Nord, une approche de mon université. Donc, je faisais partie d'un programme, l'université paye les frais en Europe pour 7 étudiants pour travailler dans un autre pays avec une ONG ou dans le cadre d'un projet de volontariat. Chaque étudiant doit soumettre un rapport de 15 pages
Par exemple, comment continuer le projet après leur départ? Est-ce que l'étudiant était plus négatif pour un exemple, par exemple, un projet qui, pendant longtemps, nous pensions que c'est un travail nécessaire, qu'on se développait personnellement, on travailler de manière positive pour une communauté. C'est pour des traumatismes environnementaux en Haïti. On a développé un programme pour le conditionnement de produits alimentaires congelés. Et le problème avec le programme, c'était que la grande partie des aliments que nous conditionnaient, la grande partie, c'était du riz. Et quelle était la plus grande industrie agricole en Haïti? C'était le riz. On perdait beaucoup de temps d'énergie dans le conditionnement. On envoyait le riz. On détruisait toute une industrie en Haïti. En réalité, il aurait été plus bénéfique d'envoyer des experts agricoles dans un cadre de volontariat pour que les Haïtiens revitalisent leur propre industrie.
Et donc, je pense, en fait, j'ai une question pour tous ceux qui travaillent dans une organisation de volontariat. Comment est-ce que vous arrivez à évaluer les projets ou choisir les projets avec lesquels vous travaillez pour être sûr que le résultat est bénéfique, plutôt qu'un résultat qui, en fait, comme je vous ai
Merci pour ce témoignage et cette question qui est en effet une vaste question, notamment sur les questions de volontariat. Le cœur, ça peut paraître hyper basique, mais je pense que le cœur du sujet, ça va être, et c'est quelque chose sur lequel on insiste, c'est comment et sur quels critères on définit un partenariat à la base du projet et de la mission de volontariat, et d'où vient d'où vient le projet. Est-ce que c'est comme ça peut l'être souvent, quelque chose qui va être pensé au niveau de, par exemple, français, qui va être ça pourrait être hyper intéressant et hyper important de développer ça dans ce pays-là, et on va trouver un partenaire, et on va toujours trouver un partenaire dans ce cas-là. Mais du coup, le projet, c'est dans le sens un peu de ce que tu disais, peut être complètement absurde et ne servir à rien, voire être complètement problématique sur le terrain. Donc, nous, il y a vraiment un sujet, notamment sur les missions de volontariat. En fait, elles vont mettre beaucoup de temps à se mettre en place, parce que ça va être rencontrer le partenaire qui fait une demande, on aurait un intérêt à avoir un volontaire français ou autre d'ailleurs sur ce sujet, et d'échanger collectivement, de définir sur un temps long pourquoi un volontaire et pourquoi pas un salarié, qu'est-ce qu'ils mettent derrière le fait que ça soit un volontaire, qu'est-ce qu'ils vont attendre du volontaire, qu'est-ce que eux seront en mesure de proposer aux volontaires, et en fait de reposer tout ça là aussi avec un principe de réciprocité très fort, c'est-à-dire qu'il y a les deux parties prenantes, quand je dis les deux, il y en a bien plus, mais on va dire, pour simplifier, les deux, qui vont poser l'intérêt que ça a pour chacun, pour essayer que le projet soit le plus intéressant pour toutes les parties prenantes. Mais c'est en effet très compliqué. Et sur les questions de volontariat, moi, dans une précédente expérience, j'allais sur le terrain rencontrer les volontaires des organisations, les VSI notamment, qui étaient envoyés par les organisations, pour échanger avec eux sur comment ils percevaient leur expérience, leur mission, et en fait des missions qui sont clairement des missions de substitution. Il y en a plein, des volontaires qui sont hyper déçus de se dire, moi je me rends compte, j'en avais un qui était libraire, et il disait, donc je vends des livres. C'est très bien, mais il disait, en fait, il y a plein de... C'était à Dakar, il disait, il y a plein de personnes qui pourraient le faire, et je ne vois pas l'intérêt que ça a pour moi, je ne vois pas l'intérêt que ça a pour eux. Il y a un vieux partenariat derrière qui peut donc tenir grâce à ça, avec des financements et tout. Et des missions de substitution, il y en a plein. Et donc, c'est aussi Au niveau de France Volontaire, une de nos fonctions avec les organisations d'envoi de volontaires, c'est de travailler à une meilleure prise de conscience de tout cela et à la meilleure définition des partenariats pour éviter toutes ces missions qui sont plus néfastes qu'autre chose.
Oui, je crois qu'il y a aussi l'idée qu'on défend le volontariat et pas nécessairement d'envoyer des professionnels. Et nous, on estime qu'il n'y a pas que des professionnels de l'humanitaire qui peuvent être dans une démarche de solidarité, par exemple. Par contre, c'est obligatoire d'être formé. On n'est pas forcément un professionnel, mais on est formé pour accomplir sa mission ou son expérience de volontariat. Je vous propose qu'on prenne une dernière question. On peut faire un sondage sur les dernières prises de parole. C'est bon. Est-ce que vous voulez quelques mots de conclusion ? C'est bon. Alors, je vous propose qu'on s'arrête là. Je nous remercie tous pour la qualité de cet échange. Peut-être quelques informations logistiques. Je regarde Jean et Mathieu, mais ils ne me regardent pas. Les informations logistiques, on dit qu'on reprend à 14h30. Je vais le dire dans le micro pour qu'il puisse traduire. Oui. Oui. Donc, 14h, là, on va déjeuner. Vous pourrez profiter d'aller voir l'expo qu'il y a sur les différents projets. Il y a aussi un espace où on va passer les storytelling qui ont été produits pendant la formation qui vient de se passer. Et on se retrouve à 14h30 en atelier. Donc, c'est dans les salles qui sont juste derrière là. Et il faut vous inscrire pendant le temps de midi sur les trois ateliers. Ce sera dans la salle. Oui.
Oui. Merci. Donc, bonjour à tous, pardon. Donc, on devrait avoir deux heures et demie pour le déjeuner. Vous verrez différents espaces en bas qui pourront vous illustrer le projet. Des documents sont mis à votre disposition. Il y a une première formation qui a été faite il y a quelques mois. Nous avons tenté d'illustrer. La deuxième formation qui a eu lieu la semaine dernière avec les personnes ici présentes, où vous avez les différents pays, les différentes organisations qui sont présentées, parmi lesquelles il y a donc des tuteurs, des tutrices qui suivent des volontaires, notamment des volontaires aussi, et des chargés de projet. Donc nous serons tous présents ici. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les voir. Ils viennent juste de vivre la formation. Donc tout le monde est un petit peu fatigué, mais je pense que tout le monde garde encore le sourire apparemment. Merci.
Merci beaucoup. Eh bien, bon appétit. Buon appetito. Et à tout à l'heure.